Amy Elliott Dune. 10 jours après. J'ai pris une décision. Passé un coup de téléphone. La rencontre ne peut pas avoir lieu avant ce soir. Il y a des complications prévisibles. Alors je tue le temps en me pomponnant et en me préparant mentalement. Je me lave dans les toilettes d'un McDonald's, avec du gel vert sur des serviettes en papier humide. Et j'enfile une robe bon marché fine comme du papier. Je réfléchis à ce que je vais dire. J'éprouve une hâte étrange. Cette vie merdique commençait à me taper sur le système. La machine à laver commune avec toujours le slip mouillé de quelqu'un coincé dans le tambour, qu'il faut retirer avec des doigts hésitants. La moquette de ma cabane qui était toujours mystérieusement trempée dans un coin. Le robinet qui fuyait dans la salle de bain. À 17h, je me mets en route vers le nord pour rejoindre le point de rencontre, un casino du nom de Horseshoe Alley au bord du fleuve. Il apparaît soudain, surgit de nulle part, un massif de néons au milieu d'une forêt. Mon réservoir est pratiquement à sec, ce qui ne m'arrive jamais. Je gare la voiture et contemple le paysage. Une migration de vieux qui trottinent, appuyés sur déambulateurs et cannes, pour traîner leurs bouteilles d'oxygène vers les lumières brillantes, telles des insectes amochés. Parmi les groupes d'octogénaires se glissent de jeunes voyous, trop habillés, qui ont regardé trop de films qui se passent à Vegas, et ne se rendent pas compte à quel point ils sont pathétiques, à essayer d'imiter la dégaine cool du Rat Pack avec leur costume minable dans les bois du Missouri. J'entre, passant sous un panneau d'affichage illuminé qui annonce, pour 2 soirs seulement, la réunion d'un groupe de doo-wop des années 1950. À l'intérieur, le casino est glacial et mal aéré. Les machines à sous font entendre leur tintement, un joyeux gazouillis électronique qui ne va guère avec les visages mornes et avachis des gens assis devant, qui fument des clopes au-dessus de leur masque à oxygène. Une pièce, une pièce, une pièce, une pièce. Ding, ding, ding. Et une autre, et une autre. Le fric qu'il gaspille va dans les caisses des écoles publiques désargentées qui accueillent leur ahurie de petits-enfants. Une pièce et une autre. Un groupe de jeunes mecs bourrés me dépasse en titubant. Un enterrement de vie de garçon. Leurs lèvres sont encore humides de whisky. Ils ne me remarquent même pas, avec mes kilos en trop et ma coupe de cheveux des années 1980. Ils parlent de filles. Faut qu'on se trouve des nanas. Mais à part moi, les seules filles que je vois ne sont pas de première fraîcheur. Les garçons vont noyer leur déception dans l'alcool, et essayer de ne pas tuer d'autres automobilistes en rentrant chez eux. J'attends dans un petit bar à l'extrême gauche de l'entrée du casino, comme convenu, et regarde le boys band Decati chanter pour un public fourni de vieillards qui claquent des doigts et tapent dans leurs mains, glissant leurs doigts noueux dans des bols de cacahuètes offerts par la maison. Les chanteurs squelettiques, flétris sous leur smoking couvert de strass, tournent lentement, prudemment sur leurs prothèses, la danse des moribonds. Au départ, le casino semblait une bonne idée, juste à la sortie de la nationale, plein d'ivrognes et de vieux, qui ne sont pas précisément réputés pour leur vue perçante. Mais je me sens cernée, et je ne tiens pas en place. Douloureusement consciente des caméras dans tous les coins, des portes qui pourraient se fermer d'un coup. Je suis sur le point de m'en aller quand il arrive, d'un pas tranquille. Amy, j'ai appelé le dévoué Desi à mon aide et pour en faire mon complice. Desi, que je n'ai jamais complètement perdu de vue et qui, contrairement à ce que j'ai raconté à Nick et à mes parents, ne me fait pas peur le moins du monde. Desi. Encore un homme sur les bords du Mississippi. J'ai toujours su qu'il pourrait m'être utile. C'est bien d'avoir au moins un homme qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. Dessy est un chevalier blanc par vocation. Il aime les femmes à problème. Depuis des années, depuis Wickshire, quand on se parle, je lui demande des nouvelles de sa dernière copine. Et quelle que soit la fille, il répond « Oh, elle ne va pas très bien malheureusement. » Mais je sais que c'est une aubaine pour Dessy. Les troubles alimentaires, les addictions aux antidouleurs, les dépressions invalidantes. Il n'est jamais plus heureux qu'au chevet de quelqu'un. Paoli, juste penché à côté avec un bol de bouillon, un verre de jus d'orange et une voix doucement empesée. Pauvre chéri. À présent, il est là, éblouissant dans un costume blanc de milieu d'été. Dessy change de garde-robe tous les mois. Ce qui allait parfaitement en juin n'ira pas pour juillet. J'ai toujours admiré la discipline, la précision des Collings dans leur choix de tenue. Il est beau. Pas moi. Je suis trop consciente de mes lunettes humides, de la bouée de chair autour de ma taille. Amy. Il me touche la joue, puis m'attire dans ses bras. Ce n'est pas une simple accolade, ce n'est pas le genre de Dessy. C'est plutôt comme d'être enveloppé dans un étui sur mesure. Ma chérie, tu ne peux pas imaginer cet appel. J'ai cru que j'étais devenu fou. J'ai cru que je délirais. J'en rêvais, j'espérais que tu étais encore en vie et cet appel. Est-ce que ça va? Maintenant, oui. Maintenant, je me sens en sécurité. Ça a été affreux. Puis je fonds en larmes. Des larmes réelles, ce qui n'était pas prévu. Mais c'est un tel soulagement. Et ça colle tellement bien avec cet instant que je me laisse complètement aller. Tout le stress s'écoule de moi. Le courage de mettre mon plan à exécution. La peur de me faire prendre. La perte de mon argent. La trahison, la lutte. La violence pure de me retrouver toute seule pour la première fois de ma vie. J'ai l'air assez jolie après une crise de larmes d'environ 2 minutes. Après ça, le nez se met à couler, les joues deviennent bouffies. Mais au début, mes lèvres deviennent plus pleines, mes yeux plus grands, mes joues rougissent. Je compte pendant que je pleure sur l'épaule ferme de Dessy. 1 Mississippi, 2 Mississippi, encore ce fleuve. Et je freine mes larmes à 1 minute 48 secondes. Je suis désolée de n'avoir pas pu venir plus tôt, mon chou. Je proteste. Je sais que Jacqueline te tient très occupée. La mère de Dessy est un sujet sensible dans notre relation. Il m'observe. Tu as beaucoup changé. Tu as le visage beaucoup plus plein, surtout. Et tes pauvres cheveux sont... Il se reprend. Amy. Je ne croyais pas que je pourrais jamais éprouver une telle gratitude. Dis-moi ce qui s'est passé. Je raconte une histoire gothique de possessivité et de colère, de violence domestique version Midwest profond, de grossesse imposée, de domination bestiale, de viol, de cachet, d'alcool et de coups. Coups de bottes de cow-boy pointus dans les côtes, peur et trahison. Apathie parentale, isolement, et les derniers mots si révélateurs de Nick. « Tu ne pourras jamais me quitter, je te tuerai. Je te retrouverai coûte que coûte, tu es à moi. » Comment j'ai été obligée de disparaître pour ma propre sécurité et celle de mon enfant à naître, et comment j'ai besoin de l'aide de Dessy, mon sauveur. Mon histoire devrait satisfaire sa passion pour les femmes amochées. Je suis désormais la plus abîmée de toutes. Il y a longtemps, en pension, je lui ai parlé des visites nocturnes de mon père dans ma chambre. Je lui ai raconté comment je regardais le plafond, dans ma chemise de nuit rose froissée, en attendant qu'il ait fini. Dessy n'a pas cessé de m'aimer depuis ce mensonge. Je sais qu'il s'imagine en train de me faire l'amour, qu'il pense comme il serait doux et rassurant, tandis qu'il plongerait en moi en me caressant les cheveux. Je sais qu'il s'imagine que je pleurerais doucement en me donnant à lui. Je ne peux plus jamais retourner à mon ancienne vie d'ici. Nick me tuera. Je ne me sentirai jamais en sécurité. Mais je ne peux pas le laisser aller en prison. Je voulais simplement disparaître. Je n'avais pas prévu que la police s'imaginerait que c'est lui qui avait fait le coup. Je jette un coup d'œil charmant vers le groupe sur scène, où un septuagénaire squelettique chante une chanson d'amour. Pas loin de notre table, un type qui se tient très droit, avec une moustache bien taillée, balance son gobelet en direction d'une poubelle et fait un airball, un terme que Nick m'a appris. Je regrette de n'avoir pas choisi un cadre plus pittoresque. Et maintenant le type me regarde, la tête penchée, en surjouant l'embarras. Si c'était un cartoon, il se gratterait la tête et ça ferait un son caoutchouteux du genre « couic, couic, couic ». Je ne sais pas pourquoi, je me dis « il a une tête de flic ». Je lui tourne le dos. « Nick est la dernière chose dont tu dois te préoccuper », dit Dessie. « Laisse-moi ce soin, je vais m'en charger. » Il me présente sa main ouverte, un geste ancien entre nous. C'est le gardien de mes soucis. C'est un jeu rituel auquel nous jouions dans notre adolescence. Je fais semblant de placer quelque chose dans sa paume, il referme ses doigts dessus et je me sens mieux. Ça marche vraiment. Ou plutôt non. Je ne m'en chargerai pas. Je voudrais que Nick meure pour ce qu'il t'a fait. Dans une société saine, c'est ce qui lui arriverait. Oui, eh bien, nous ne sommes pas dans une société saine et il me faut rester cachée. Tu me trouves horrible ? Je connais déjà la réponse. Bien sûr que non, mon chou. Tu as été forcé d'agir ainsi. Ce serait de la folie de faire quoi que ce soit d'autre. Il ne pose pas de questions sur la grossesse. Je savais qu'il n'en poserait pas. Tu es le seul à savoir. Je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais semblant d'hésiter, me mâchonne le coin de la lèvre, détourne les yeux, puis les repose sur Dessie. J'ai besoin d'argent pour tenir un petit moment. Je pensais prendre un boulot, mais... Oh non, ne fais pas ça. Tu es partout, Amy. Toutes les infos, tous les magazines ne parlent que de toi. Quelqu'un te reconnaîtrait, même avec cette... Il effleure mes cheveux. Nouvelle coupe sportive, tu es une belle femme. Et pour une belle femme... C'est difficile de disparaître. Malheureusement, je crois que tu as raison. Mais je ne veux pas que tu penses que je profite de la situation. C'est que je ne savais pas où. La serveuse, une brune quelconque déguisée en jolie brune, s'arrête et pose nos verres sur la table. Je me détourne un peu et vois que le curieux à moustache s'est un peu approché. Il m'observe avec un demi-sourire. Je ne suis pas au top de ma forme. L'ancienne Amy ne serait jamais venue là. Le Coca Light et l'odeur de ma propre sueur m'embrouillent le cerveau. Je t'ai commandé un gin tonic. Dessie fait une grimace délicate. Que se passe-t-il ? Je demande poliment, mais je connais déjà la réponse. C'est ma boisson de printemps. Maintenant, je suis au Jack et au Ginger Ale. Alors on va t'en commander un, et je boirai ton gin. Non, ça ira très bien. Ne t'en fais pas.